On va rentrer maintenant dans les moments un peu festifs de ces 72 heures avec la soirée Grand D. Et puis tout de suite, là j'étais dans le studio, j'étais comme dans une cour d'école en fait. On a des gamins qui ont quand même plusieurs dizaines d'années qui étaient là en train d'échanger, de montrer leurs photos, de nous montrer une grille de programme de 88 écrite à la main. Et oui, ça paraît incroyable. On a le plaisir de recevoir ici l'équipe de Radiomen. Alors Radiomen, ça vous rappelle peut-être quelque chose, à une condition, c'est que vous ayez connu cette époque, évidemment, des années 80. Et Radiomen était une des radios les plus cotées, on peut le dire, à cette époque-là, avec West FM. Et donc, première Radiomen, audience cumulée veille, nos concurrents le confirment, d'après dont ils ont fait état, la première radio n'est pas première audience cumulée veille, Radiomen est donc toujours leader au Mans. Ah oui, ils y vont, hein. Ils chargent. Ils sont en train de nous sortir la propagande de l'époque, voilà. Hein, et les résultats de sondage, ils sont là. Ils sont là, on a autour de la table. Allez, je fais le tour. Patrick Hoft, Jean-Paul Muller, Pierre Barry, Bruno Bernard, Francis Pousse et Pascal Brulon, qui a réuni cette équipe de gentils galopins qui vont venir nous parler de cette histoire de Radiomen.
Plus Marc Arnoldi en direct du Brésil.
Alors, est-ce qu'on nous le confirme? Ah, alors on a Marc Arnoldi au Brésil. Et donc, Pascal, je te laisse tout de suite prendre la parole pour expliquer comment tu as réuni ces copains. Et puis peut-être lancer la communication avec Marc Arnoldi, si tu le souhaites, dès le départ. Ou plus tard, s'il reste avec nous pendant l'ensemble de l'émission.
Oh, je connais Marc, il va adorer rester avec nous. Alors, il ne va pas être avec nous pendant toute l'émission, parce que je crois savoir qu'on va aussi avoir Thierry Déhan tout à l'heure, et peut-être Laurence. Et que c'est successivement qu'on va aller prendre. On va lui dire bonjour à Marc, tout le monde va lui dire bonjour.
Salut Marc.
Alors, est-ce que Marc nous entend?
Marc, est-ce que tu es là?
Moi je vous entends, oui.
Nous aussi, ouais. On entend parfaitement.
Magnifique.
Depuis le Brésil, depuis quel endroit au Brésil?
À Brasilia.
Brasilia même.
La ville de mon année de naissance, puisque je crois qu'elle est née en même temps que moi. La ville. Donc elle a quelques années.
Hein. 1928.
Ouais. Mais c'est pas une plaisanterie.
On a eu chaud, ça aurait pu être Jérusalem.
C'est pas une plaisanterie. Bon bref, j'ai appelé immédiatement, j'ai appelé Thierry Déhan d'un côté, j'ai appelé Patrick Hoft de l'autre, et immédiatement tout s'est mis en branle en quelque sorte, puisque les contacts se sont faits rapidement, et on a effectivement réussi à réunir tous ces gens-là. Alors certains ne sont pas là, hélas, d'abord parce qu'il y en a qui ont disparu, et puis on peut peut-être dire un petit mot pour commencer, de parler de ceux qui ont disparu et qu'on a beaucoup aimé. Évidemment Pierre-Yves, oui. Philippe Brunel en premier, qui est parti très tôt, il y a quelques années, maintenant, il y a 3 ans. Ouais. On peut citer également Arnaud qui était la voix de la nuit.
Oui.
Pour ceux qui aimaient les nocturnes, Yves Champy qui a été directeur de Radiomen avant Philippe Rincel, et puis voilà. Bon, heureusement il n'y en a pas d'autres. Alors certains ne sont pas avec nous aujourd'hui parce que ils sont trop loin ou qu'on n'a pas pu les joindre, et évidemment on pense aussi à eux, on espère qu'ils se manifesteront pour qu'on se fasse une bonne
absolument, un rendez-vous campagnard d'ici très peu de temps, je l'espère.
Voilà. Bon, alors Radiomen, c'était les années 80, c'était en haut du Maine Libre. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'était le dernier étage du Maine Libre qu'on avait investi.
Étage, ouais.
Et petit à petit, on grignotait des mètres carrés d'ailleurs.
La plus belle vue sur le Mans à l'époque.
Ouais, c'est vrai ?
Absolument. Ouais.
Alors ça a impressionné évidemment tout le monde de monter là-haut. Place de l'Éperon. Et on a fini par contre rue Saint-Martin. C'était un petit peu plus petit.
Avec une moins belle vue.
On était dans un KGB là.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que nous on a en tête l'idée que Radiomen était la radio du Maine Libre. Donc sous l'autorité
ouais.
De
bienveillante
de l'équipe du Maine Libre. Et vous êtes fait virer alors, c'est ça?
Non, on s'est pas fait virer. En fait, le Maine Libre en avait marre de perdre de l'argent, tout simplement, puisque la radio coûtait cher. En fait, tous ces gens-là, là, ils étaient payés une fortune, tous les gens qui sont autour de la radio.
Absolument. Avec les journaux que nous, on achetait.
Oui, avec ça, voilà, absolument. Voilà. Non,
si je peux, je fais une petite...
Patrick Hoff.
Voilà. Simplement, c'était évidemment une grande bande de bénévoles, initialement, et puis ensuite, il y a eu évidemment quelques petits... émoluments, mais le seul salarié qui a véritablement coulé Radio Maine, c'est moi. Alors, puisque j'étais
salarié. Nous en voulons à savoir plus sur ce témoignage troublant.
J'étais simplement journaliste au Maine Libre, et quand le groupe de presse a décidé de la création de cette radio, à l'époque où effectivement les radios libres commençaient à enflammer un peu les territoires, et j'ai levé le doigt pour l'aventure, bien sûr, j'étais très tenté par cela, et donc j'ai été détaché du journal pour m'occuper donc des informations de Radio Maine.
Et faire les flashs du matin quand voilà. Son réveil sonnait, hein, parce que c'était pas toujours le cas.
En plus.
Parce que se lever à 4 heures, alors aujourd'hui mon épouse me le reproche de me lever un peu plus tard que prévu, mais je lui rappelle quand même que pendant de nombreuses années, je me levais à 4 heures ou 5 heures du matin. Mais voilà, ça, c'est une petite précision concernant
Rassure-nous, tu ne touchais pas un double salaire.
C'est non, Jean-Paul Muller. Justement. Mais c'est une précision d'importance parce que...
Oui, on s'est posé depuis 40 ans.
Voilà. Donc, surtout, il a des motos partout. Ouais,
donc les gars, j'étais payé, j'étais salarié.
C'est lui.
Peut-être le seul salarié des radios libres du Nord à l'époque.
Ce qui est très drôle, c'est quand on regarde les films d'époque, puisque nous avons repêché toutes les archives de France 3, ce qui a été tourné concernant Radio Maine, on voit des gens avec des cheveux.
Non, il y en a qui en avaient.
C'est nous tous. Hein, voilà.
Je peux faire une petite précision. Oui, je suis le seul autour de cette table à avoir encore mes cheveux.
D'origine.
Et je le dis, puisqu'on est radio, c'est vrai.
même pas coloré.
Tous mes copains, ils ont perdu leur poil, c'est incroyable.
Et donc on a les...
Oh non, toi aussi, c'est bon.
Les images de l'époque qui nous permettent de voir la force avec laquelle Radio Maine souhaitait s'imposer, en quelque sorte, comme radio forte sur le secteur. En tout cas, le Maine Libre affirmait l'idée que la presse devait absolument ne pas se laisser déborder par ce danger terrible qu'était la radio, et que le meilleur moyen pour ne pas être embêté par la radio, c'était d'avoir sa propre radio. Est-ce que c'était ça
l'idée du concept, effectivement, mais c'était surtout pour occuper effectivement l'espace médiatique qui, à l'époque, évidemment, éclatait complètement. Et il était normal qu'un groupe de presse bien portant à l'époque se pose la question et se dise qu'un média supplémentaire au sein du groupe, et pas n'importe quel média, puisque c'était le vrai développement des radios libres, c'était intéressant d'y mettre un pied, voire les deux même.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a une belle concurrence entre, on va les citer, hein, OuestFM et Radio Maine.
Soutenu par Ouest France.
Bon, et quand même, la vérité m'oblige de dire que OuestFM nous battait quand même un petit peu en audience. Hein. C'était du 13-9. Des audiences d'enfer dont je me souviens encore aujourd'hui. 13,9%. Il n'y a pas une radio aujourd'hui qui fait 13,9%. Et nous, on était à 12,8. Il n'y a pas une radio qui fait 12,8 non plus. Donc ça fonctionnait formidablement bien.
C'était nouveau. Au-delà de la qualité des animateurs de OuestFM et puis de Radio Maine, qui, il faut le dire, Pascal vient de l'évoquer, se tire un peu la bourre, parce que c'était vraiment formidable à ce moment-là. Il faut dire qu'au-delà de la qualité des animateurs, il y avait de l'info, et ça, c'est un petit peu mon dada, bien évidemment, mais il y avait de l'info sur OuestFM, de l'info de qualité, des émissions de qualité. On leur rend grâce, et on avait également des amis de fer de qualité.
Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour pour que chacun explique comment il est arrivé à Radio Maine?
Un transfuge.
Et ce qu'il a fait, Jean-Paul Muller.
Un transfuge. Il vient de OuestFM, justement.
Oui. Petite précision, parce que je viens de vous entendre dire OuestFM soutenu par Ouest France. C'était pas tout à fait le cas.
Oui.
Il y a eu des collaborations. Oui. Monsieur Beaufils, qui était le chef de l'agence d'Ouest France à l'époque, venait un petit peu de temps en temps présenter un sujet magazine, quelque chose de plus étoffé, me disait, puisque c'était moi qui faisais les infos, faut pousser là-dedans, etc. bien sûr, Ouest France, comme tous les journaux de partout en province, avait une idée sur la radio. Est-ce qu'on en fait une? Est-ce qu'on n'en fait pas? Bon, ils ont dansé d'un pied sur l'autre pendant assez longtemps, et je crois qu'ils ont fini par ne pas en faire, en tout cas, pas ici, pas au Mans. On n'a pas été particulièrement soutenu par Ouest France.
C'est une précision d'importance, parce qu'effectivement, autant Radio Mel était la radio du journal, la radio du groupe de presse, autant Ouest FM était un compagnon de route de Ouest France.
Oui, c'était à peine. C'était une création de quatre personnes qui un beau jour se sont dit, c'est dans l'air du temps, on va démarrer un peu après les autres, on va faire une radio. Je pourrais vous donner la genèse, parce que c'était un petit peu folklorique au départ, mais très vite, parce qu'il y avait des animateurs pros, excusez-moi de me citer, et Claude Vandel aussi, on a mis sur pied une grille de programmes cohérente, comme celle-là, qui tenait la route.
Donc radio passée par Ouest FM et passée par Radio Men.
Un transfuge.
Ah, voilà. On va être avec Pierre Barry maintenant.
Bonsoir.
Alors Pierre Barry, passage par quelle radio et pourquoi et comment?
Transfuge aussi.
J'ai commencé avant Radio Men. J'ai commencé à Radio Tropicana. Bénévole.
Waouh.
Et vous faisiez quoi? De la musique sur Tropicana? Parce que c'était quand même l'ADN.
Une émission quotidienne sur les années 60.
Eh oui, voilà, logique.
Ouais.
C'était dans une discothèque Tropicana à l'époque.
Voilà, c'est pour ça qu'ils ont eu des ennuis avec le CSA, parce que ça s'appelait comme la discothèque. Ouais. Et ils ont changé de nom et ça s'est appelé RLM Radio Le Mans après.
Et donc, passage après directement à
Alors,
Radio Men.
1er décembre 84, entrée à Radio Men.
À quelle heure?
Et pourquoi Radio Men?
Parce que je souhaitais être rémunéré.
Ouais.
Je pensais que les radios auraient beaucoup d'avenir et bon.
Toutes n'ont pas eu le même avenir.
Pas toutes.
Bah, t'avais un métier entre les mains, et entre la voix, entre les cordes vocales, il fallait t'en servir.
Oui, ben merci.
On va demander à Bruno Bernard.
Tu faisais les après-midi,
de nous expliquer.
L'après-midi, 3 heures chaque après-midi.
Ah, ouais, c'est ça.
Ah oui. On va parler des programmes.
Super spécialiste de musique. Ouais.
Alors moi, j'ai moins de mémoire que Pierre. Moi, je suis arrivé au d'abord. Alors, je suis allé dans une radio dont j'ai totalement paumé le nom. qui était là avec un émetteur dans un truc paumé dans le Mans.
Ah, France Inter.
et j'ai commencé avec le hard rock à l'époque. Et puis, je me suis pointé au Maine Libre et on m'a dit, tiens, on a besoin d'une émission. On a fait une émission de hard rock avec un ami qui s'appelle Yves. Et puis après, je suis parti rejoindre des membres de cette équipe, dont Philippe Prévost, Morty.
Fifi et Pépette.
Fifi et Pépette. On a animé. Moi, j'ai animé avec Laurence les week-ends et Thierry, qui est aujourd'hui maintenant sur Chérie FM.
Laurence Baïf,
voilà. Laurence, le samedi matin, on faisait tous les samedis matins. Et puis après, j'ai été un transfuge parce que je suis parti avec Philippe Prévost. On est parti installer Énergie sur le Mans. Voilà.
Ah oui. Francis Pousse, est-ce qu'on peut avoir aussi les origines, la jeunesse de votre activité en radio?
Alors moi, c'est très simple, puisqu'en fait, Radio Men, ça a été mon premier emploi. J'ai commencé en contrat de qualification, donc je ne coûtais pas cher à Radio Men.
Il se plaint tout le temps.
T'es qualifié maintenant ou...
Oui, au bout de 40 ans, je suis qualifié, presque. Et j'ai été embauché comme technicien.
Ouais.
Donc je connais plutôt le côté obscur de la force avec énormément de gros souvenirs dont un qui était la première retransmission de la messe de minuit à la cathédrale du Mans, où c'était quand même une épopée.
Tiens, oui. Avec d'excellents commentaires.
Avec d'excellents commentaires de Pascal Brouillon, bien évidemment.
Et alors, tu
sortais du séminaire à l'époque.
Tu faisais aussi dédicaces de 10h30 à 11h, une demi-heure, ça suffisait, je pense.
Mais on m'avait laissé quand même un poste, parce que quand on m'a embauché, on m'a dit tu pourras parler dans le poste un jour. Donc on m'a gentiment donné.
La belle expression que les jeunes aujourd'hui ne pourraient pas comprendre.
Et bien entendu.
Parler dans le poste. Alors, avant de revenir vers Pascal Brouillon, est-ce qu'on peut aller vers Marc Arnoldi, quelque part du côté du Brésil, pour qu'il nous explique pourquoi il avait rejoint ainsi Radio Men.
Ah, Radio Men.
Marc Arnoldi.
Ouais. Écoutez, oui, ça me fait tellement plaisir d'entendre toutes ces voix dont je me souviens.
Ne pleure pas,
pour
ne pleure
les cheveux,
pas.
Moi, c'est pas bien non plus. Hein. Non, il en reste 3-4.
C'est bon, je reste en tête. Super.
Moi, je suis un pur produit de la génération des gamins qui ont grandi avec la FM. Ça a été une chance magique pour nous. j'ai pas noté tous les gens qui sont au studio, mais il y a des noms qui ont été cités, évidemment. Je suis de la même génération que Sébastien de Rance. Et en fait, nous avons eu cette chance. Donc moi, j'ai commencé pour la première fois en décembre 1982 à Radio Progrès.
Ah, t'as commencé à Progrès.
Oui, j'étais au lycée à Montesquieu et tous les mercredis après-midi, il y avait un espèce de truc, ils recevaient des étudiants, ou je me souviens pas exactement comment c'était, mais c'était une fois de temps en temps. Et puis je me suis incrusté, bien entendu, tu penses. Et donc, après, je sais pas ce qui se passait, parce qu'on avait des problèmes avec le lycée Bellevue, on s'entendait pas, enfin bon. Et puis à un moment, j'ai dit à Fifi et Pépette.
Voilà.
Et les revoilà. Prévost et Préaubert, hein, c'est ça. Oui, Philippe Prévost.
Je leur ai dit, écoutez, ce créneau-là, il y a quand même des trucs à faire, on pourrait parler d'autres choses, etc. Bon. Voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait toute l'année, je me souviens une bonne partie de l'année 83. Et puis ensuite, vraiment, je sais pas pourquoi, je suis allé à Le Mans FM 104.
On se le demande encore. À l'époque, avec Pollux, par exemple.
Ouais. Et Jacques Guichard.
Oui, c'est ça. Avec Pollux, oui, bien sûr. Jacques Guichard, entre autres choses, ça. Mais en fait, ça n'a pas été très, très longtemps. Et puis, il y a eu une annonce dans le Main Libre.
Ah bon?
Le Main Libre a passé une annonce. Ah oui, il a passé une annonce pour recruter des gens pour Radio Main. Ah, je m'en souviens parce que c'est ma maman qui l'a vu dans le journal.
D'accord.
Et donc, je suis allé avec une cassette que j'avais fait à Le Mans FM 104. Et voilà, donc il y avait les gens qui étaient là. J'essaie de me souvenir de son nom, je crois que c'était Pascal Chauvin, c'est ça?
Oui, tout à fait. Pascal Chauvin, c'était au tout début.
C'était l'un des premiers directeurs de l'antenne.
Oui, c'est ça, mais c'était au tout début, puisque moi, quand je suis allé pour l'entretien, Radio Main n'existait pas. Donc c'était la première grille avec Pascal Chauvin et Alain Bouet. Donc on s'est réunis, voilà. Ah, et puis alors après, Alain Bouet m'a dit, écoute, c'est bon, tu vas faire un programme, tu vas parler dans le poste le mercredi après-midi, et puis tu vas t'appeler Pop Marraine.
c'est joli ça. Et pourquoi ce nom-là?
Ouais, donc. Eh ben, je sais pas, parce que ça faisait un peu Bob Moran.
Voilà, c'est ce que...
Et puis alors, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il était, qu'il appréciait spécialement les marraines d'Oléron, mais ça le faisait toujours rire. C'était le Bob Moran.
D'accord. Alors, on va revenir vers vous après, Marc Arnoldi, parce que je voudrais aussi donner la parole à Pascal Brulon.
Vincent. Vincent.
Son nom de scène.
Ah non, je m'appelais Vincent.
Oui, Vincent. Vincent.
Mais aujourd'hui, on le connaît comme ça, parce que vous le connaissez bien, vous le voyez régulièrement à la télévision. Pascal Brulon, c'est le directeur de LMTV. Et ben oui, il a fait de la radio avant, il y a longtemps. Allez voir les films, vous verrez. C'était édifiant.
C'était
édifiant. Alors Pascal, comment est-ce que vous êtes arrivé comme ça à faire de la radio?
Non, en fait, c'est mon métier, hein, puisque c'est des études et de radio et de télé, un peu de presse que j'ai faites juste après ma terminale. Je voyais bien que j'allais pas faire grand-chose de ma vie, donc je me suis dit, c'est le seul truc qu'on peut faire, saltimbanque. Et puis,
venant de Télocher, en plus.
Venant de Télocher, alors, oui, ça a raison. Qui est-ce qui a dit ça?
T'es handicap.
Le mécarnage. Et donc, Paris m'a tiré, la rue du Faubourg Saint-Honoré, de chaque côté de l'Elysée, il y avait une école qui préparait ces fonctions-là, et donc voilà.
Et Télocher, c'est pas aussi de là que vient
Jean-Yves Breteau? Bon, on est cousins.
Jean-Yves Breteau, viens là aussi sur un micro. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a un vivier comme ça particulier à Télocher?
Il a jamais bossé à
Radio Maine.
Mais
parce qu'il y a beaucoup de talent, tout simplement, à Télocher.
Je savais bien qu'on aurait une remarque.
Quelle question! Il y avait Annie Guimier aussi, voilà, qui a été grande prêtresse de la nuit.
C'est vrai, ça.
Bien sûr. Je me souviens y avoir vu Pascal d'ailleurs à cette
époque. Non, jamais. Et moi, je suis très sérieux.
Ça serait. On a des dossiers. Non, mais moi, je me souviens de Pascal quand tu étais équipé par, voilà, un truc enfin un petit camion, je sais pas trop quoi.
Ah, une bulle d'animation.
Oui, voilà. Ça avait hyper marqué à l'époque.
Non, mais en fait, donc j'ai eu la chance de participer à la toute première radio locale de France, qui était Radio Mayenne, avant que ne soit créée
de Radio France.
Les radios libres, puisque c'était sous Giscard. C'était en 80, enfin un truc comme ça, créé par Daniel Hamelin, qui était l'animateur star de France Inter. Donc ça a été ma première expérience. Après Radio Avoria, après Tropico Oasis 84, j'avais ma société d'animation, donc avec une bulle effectivement toute vitrée, etc.
Tu travaillais avec.
Oui, absolument. Et puis un jour je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'on peut faire des choses du côté de Radio Maine, et je me suis proposé à Radio Maine, voilà. Et là on a inventé un truc qui était la tournée des plages, la tournée d'été, avec le Carpodium du Maine Libre.
Absolument.
Et attention, Nicole Croisy est venue chanter chez nous. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu te souviens ou pas?
Ouais, une panne de playback.
Exact.
Aïe, c'est moche.
Parce que c'est une femme qui chante merveilleusement bien. Elle ne souhaitait pas chanter en playback. On lui a dit, c'est plus simple pour des tas de raisons.
Non, mais attendez,
évidemment,
on n'avait plus de moyens pour avoir des ondes. Je ne comprends pas la tournée des plages quand on dit une radio sartoise.
Eh ben, on fait les plages de Ciel-Guillaume, de Marçon, de Monsigné.
C'est super festif.
On a lancé la carrière de Hélène.
Oui.
La première interprétation en public d'Hélène, et elle me remercie à vie, c'est m'enseigner en première partie du spectacle qu'on avait organisé.
Tout à fait.
Sur le Carpodium du Maine-Libre.
Et on avait des techniciens qui véritablement étaient des héros, parce qu'il fallait monter dans des endroits improbables. Ah ouais. Hein. Vous imaginez une petite plage et du sable, et puis un lac, des sapins qui évidemment empêchait l'antenne de passer correctement, et on avait des techniciens qui se démenaient comme des fous pour pouvoir récupérer une antenne correcte, et c'était passionnant en même temps.
Donc,
c'était une véritable aventure à chaque fois.
Donc on a compris que vous aviez tout compris au marketing, et c'était par les plages qu'il fallait bien sûr attaquer le public sartois. Bon, mais il y avait aussi des grilles de programme.
Oui,
ça consistait en quoi, les grilles de programme de Radio Maine?
Alors,
Pascal Brelon.
À la différence d'aujourd'hui, on partageait peu de programmes. Le seul animateur vedette qu'on avait, c'était Antoine Decaune, et on recevait son programme en cassette toutes les semaines. Alors ça s'appelait comment d'ailleurs?
C'est sérieux, c'est une blague.
Non, c'est pas une blague. Ça s'appelait Marlboro Music.
Un programme sponsorisé.
Sinon, on faisait nous-mêmes.
Les temps ont changé. Hein.
Nos programmes, on mettait des animateurs, pas 24h sur 24, mais pas loin.
Pascal, c'était 24h sur 24.
La nuit, il y avait un programme automatique. Ouais. Hein, je sais pas, qui venait de Paris,
Au début, on avait un téléphone.
Alors au début, on enregistrait.
Et pour la petite histoire, si on parle de sport un peu, puisqu'il y a eu des programmes sport, notamment avec Serge Bordeaux, bien évidemment, qui était absolument formidable, eh bien ça a permis de créer une agence sportive sonore, on va dire, qui s'appelait APS, et qui a rayonné sur l'ensemble de la France, hein, puisqu'elle fournissait des informations sport à l'ensemble des radios de France. Ça s'est fait à la fin de Radio Maine, ça.
C'était
même pendant, peut-être.
Oui. APS diffusait sur Radio Maine pendant ses émissions de sport.
C'était un Vanier, mais je ne me souviens plus de son prénom.
En parlant de sport, ça devait être un petit peu à la bourre quand même avec West FM, parce que dans les films, justement, on voit souvent West FM présent sur des événements sportifs.
Oui, mais ils avaient tendance à tirer la couverture à eux, mais... c'était quand même nous qui étions là, essentiellement.
Nous avions aussi d'excellents collaborateurs en sport. J'ai nommé Alain Moire, qui a été collaborateur de West France, et qui, handicapé, avait pratiqué le basket. Alors, et qui connaissait ça sur le bout des doigts.
Donc, Radio Maine était une radio qui cherchait à avoir le plus grand auditoire. Non, mais c'est clair, c'était l'objectif.
On vendait des pubs.
Et on les montait.
Voilà, il y avait de la pub, donc il fallait faire de l'auditoire. Dans les années 80, en quoi consistait un programme capable d'avoir le maximum d'auditeurs?
Déshabillez-moi.
Qu'est-ce qu'on faisait le matin? Qu'est-ce qu'on faisait le
déshabillez-moi.
Midi.
Un peu tôt.
Déshabillez-moi.
Alors, c'était à quelle heure et qui faisait ça?
Déshabillez-moi, c'était...
Patrick Hoft.
C'était un grand luxe. Un grand luxe parce que...
C'est génial.
Ça dit, c'est de la radio, hein.
Oui. Oui, bien sûr. On avait un indicatif qui était formidable, qui était l'indicatif de Déshabillez-moi. Je ne vais pas le chanter ici, je ne vais pas briller.
Juliette Gréco.
Voilà, de Juliette. Et l'objectif, c'était de recevoir un invité, quel qu'il soit, et puis de décortiquer un tout petit peu son âme, son cœur, sa vie, son travail, tout en lui faisant plaisir. puisqu'il lui demandait d'apporter évidemment ses propres titres.
Et à l'époque, c'était un format long.
C'était 2 heures.
Voilà, ouais. Ça c'est ce qu'on retrouve, c'est une constante effectivement de cette période. Oui, ouais. Pascal Brulon.
On a fait également, alors c'était les prémices de Déshabillez-moi, ça s'appelait peut-être pas Déshabillez-moi, je me souviens plus bien, mais petit déjeuner à domicile ou je sais pas quoi. Vous vous souvenez pas qu'on allait chez le président du conseil général, on faisait des liaisons par téléphone, par satellite, par machin, par truc qui marchait moyennement.
À l'époque c'était Michel Dallière.
C'était Michel Dallière. Et je me souviens surtout d'une des émissions qui était avec le président de l'ACO de l'époque, qui était M. Cosson, du côté de Chahine, là-bas, enfin du côté de... Et où Patrick Hoft n'arrivait pas à atteindre pour l'heure, ça devait démarrer à 9h moins le quart ou un truc comme ça, l'émission le samedi matin. Il n'arrivait pas avec sa voiture parce qu'il y avait du verglas, donc elle patinait dans la montée. Et donc... in extremis, à 9h moins le quart, il a réussi à rentrer dans la maison. Il s'est jeté sur le téléphone qui était sous le l'escalier. Et il a commencé l'interview de Monsieur Cosson avec le téléphone à la main.
Avec le téléphone, oui, c'était, voilà. C'était le plan B.
Alors, on va écouter aussi Pierre Barry, Bruno Bernard et Francis Pousse nous dire, eux, dans les programmes, qu'est-ce qu'ils faisaient.
Alors, j'ai tenu absolument à me démarquer d'Ouest FM, qui passait plutôt de la playlist de top 50, si on peut appeler ça comme ça.
Objection, monsieur Barry, objection.
Ouais, vas-y.
Non, je t'en prie.
Donc, je passais de la musique plutôt inconnue, mais agréable à écouter. Plutôt anglo-américaine dans l'ensemble.
Donc, c'était le chant de la musique. Bruno Bernard.
Alors moi j'étais plutôt le samedi matin avec Laurence dont je parlais tout à l'heure, Thierry Déon Longin qui faisait notre technique.
Qu'on aura au téléphone tout à l'heure.
Donc voilà, on faisait toute la matinée du samedi d'après ce que je me souviens, c'est loin, très loin. Et puis je passais beaucoup de temps en studio avec Morty, Philippe Prévost, parce qu'on montait énormément de publicités, on créait les pubs, on les enregistrait. Ça, c'était un très très gros boulot, c'était génial, parce qu'on on essayait de faire les pubs les moins nasses possibles. Alors, il y en avait quand même.
C'était quoi les pubs? C'était des grandes surfaces, des petits commerçants
Il y avait vraiment de tout. Et à l'époque, les petits commerçants, effectivement, achetaient pas mal de pubs. Et c'était une des guerres. Hein. Oui, on voulait avoir de l'audience.
On voit dans les films également une enquête qui est menée dans les boutiques qui étaient dans le sous-sol de la place de la République à l'époque, où les commerçants expliquent oui, ça permet de diversifier. Ça peut être utile à la publicité, à la radio. C'était ce type
de
commerçant.
C'était genre de commerçant, Et puis il y a un autre, il y a des choses qui me reviennent maintenant, c'est très étonnant. Mais on avait, grâce à nos techniciens d'ailleurs, on avait de temps en temps des interviews. Moi j'ai des souvenirs à la rotonde d'interviews avec une ligne SP. Ça nous coûtait la peau des fesses. Il n'y avait pas que le salaire de Patrick Hoft. Et ça nous coûtait du pognon monumental. Et je me souviens avoir fait quelques interviews, Jeanne Masse, etc. Et c'était assez génial parce que ça, c'était possible à l'époque. On venait de n'importe où. On n'avait jamais fait d'école de radio, etc. Et on se retrouvait, on a rencontré beaucoup de gens comme ça. À faire des interviews aujourd'hui, c'est totalement improbable.
Oui, tu me fais penser au jeu aussi, excuse-moi, parce que c'est quand même intéressant de parler des jeux. Je me souviens qu'on avait réussi à commencer à se faire financer avec Monsieur Vanussi. Vous vous souvenez pas de MDV,
traitement des jeux. Ton ami Vanussi.
J'ai la cassette.
Je suis allé au Mali avec Monsieur Vanussi sur la Fondation Balavoine, évidemment. Mais non, je dis ça parce qu'on avait, il aimait que les Mercedes, donc il fallait qu'on roule en Mercedes et qu'on mette un casque de Walkman sur la Mercedes, tout à fait. Et qu'on arrête les gens pour leur dire on vous fait gagner de l'argent.
Je peux raconter très rapidement.
C'est top.
Très rapidement, petite anecdote.
Patrick
très rapide.
Hoft, après Francis.
Oui Francis. Je t'en prie, Patrick. Je te double.
Respect.
Anecdote par rapport à Monsieur Vanucci. À la fin de l'émission dont on parlait tout à l'heure, Déshabillez-moi, il était venu avec son épouse et
Marie-Dominique. MDV.
Belle mémoire. Et il avait donc décidé en fait de racheter Radiomène. Il nous avait fait une proposition.
Bah tiens.
Et il était tellement content de l'émission. Il m'avait dit il n'y a pas de problème, on va aller au restaurant, je vais racheter la radio. Et puis, bon, à l'époque, j'ai eu le malheur de lui parler de ma passion pour la montgolfière. Il m'a dit pas de problème, je vais acheter une montgolfière MDV. C'était ahurissant. On a des anecdotes complètes autour de tout ça. Ça nous a bien marqué quand même.
Francis Pousse.
Alors moi, comme je vous le disais, j'étais plutôt l'homme de l'ombre. J'ai eu l'honneur de présenter une émission de dédicace. Et qui, contrairement à ce que tu disais, Pascal, c'était 10h30, 13h et non pas 10h30, 13h. Donc merci de ton...
Vous aviez des dédicaces en fin de matinée, comme ça?
Le dimanche.
Ah, le dimanche, oui, d'accord. Ah, oui.
C'était le moment où il y avait le plus d'audience.
Mais bien sûr, ouais. C'est pour ça que tu m'avais placé sur ce créneau-là, je comprends bien.
Est-ce qu'on peut demander...
comme disait mon ex-collègue, on créait des pubs, et c'était drôle parce que c'était à l'ancienne, on coupait les bandes à la main pour réduire
la
durée.
Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque.
Non. On les a eu rue Saint-Martin, les ordinateurs.
Et alors, j'ai eu aussi une mission, parce que tu ne dis pas tout, mais Radiomène, à un moment, a été diffuseur de la publicité pour Skyrock. Au début, quand Skyrock est venu s'implanter au Mans, on avait un petit bout de studio où, à heure pile, on devait diffuser les pubs. Alors, parfois, il y avait quelques erreurs.
Est-ce qu'on peut retourner vers le Brésil, de Marc Arnoldi, pour qu'il nous raconte ce qu'il faisait, lui, dans le programme de Radiomène. Marc, vous nous entendez?
Oui, je vous entends. Bah, écoutez, moi, j'ai eu deux périodes à Radiomène, de 84 à 86. Je faisais le mercredi après-midi, comme je vous le disais, j'ai été pris parce que j'étais un lycéen, j'étais un étudiant, donc c'était plus comme ça, quoi. C'était une prise que la radio avait avec le monde lycéen. C'est ensuite, quand je suis revenu comme salarié, que j'ai vraiment plus travaillé complètement. Alors je fais plusieurs choses, de la programmation, des choses comme ça. Voilà. Mais je voulais vraiment profiter parce que ça me fait tellement plaisir. Ça fait 25 ans que je n'habite plus en France, même si j'y reviens régulièrement. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ces voix de gens que parfois j'ai pas revus depuis l'époque. Francis, par exemple, je l'ai pas revu depuis lors. Jean-Paul Muller, je le revois régulièrement parce que il vient toujours m'ennuyer quand je viens aux 24 heures du Mans. Il est là, est toujours là, il est derrière moi. Il est insupportable.
C'est vrai, et c'est pas prêt de s'arrêter.
Mais surtout, c'est presque avec une pointe d'émotion que j'entends parler de ces moments-là et de ces gens-là. Patrick Hoft, ça a été un professeur pour moi. Parce que je suis journaliste dans l'âme.
Merci.
Et il a été un professeur de journalisme, mais surtout il a été pour un gamin comme moi, un adolescent évidemment, il a été un professeur de Sarthe. Parce que lui, il la connaissait bien. Et Jean-Paul aussi. Donc, pour moi, enfin, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui en Sarthe, mais quand on a 16 ou 17 ans, sous Jette Gamelon, ou Mansigny, ou des choses comme ça, ça fait un peu ringard.
Colossier.
Et lui, en fait, excusez-moi, en fait, il y a un delay, donc je continue à parler parce qu'en fait, votre retour, il me vient comme 3 secondes de retard, mais en fait, c'est ça, c'est que en écoutant ces interviews, il faisait des interviews qui passaient avec des gens qui faisaient des fêtes dans des petits villages, et moi, ça m'a beaucoup plu, et plusieurs fois, je suis allé le week-end, quand j'ai eu ma voiture, évidemment, au début, j'en avais pas, pour aller voir justement qu'est-ce qu'il y avait dans ces villages, qu'est-ce qu'il y avait dans ces fêtes. Je crois que ça passait le samedi matin, ce qu'il faisait. Il faisait une interview avec quelqu'un qui faisait une kermesse, je sais pas trop où. Et plusieurs fois, je suis allé rien que pour voir comment c'était. Et puis, Pascal Brulon, bien sûr. Pascal Brulon, lui, ça a été un professeur de radio. D'abord parce que je l'écoutais bien avant quand il était sur Radio Mayenne. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler à Radio Mayenne. Et j'ai toujours, pas Radio France Mayenne ensuite, j'ai toujours pensé, eh bien, c'est là où il était un jour. Et c'est vrai qu'il était déconcertant parce qu'il avait 4 idées par seconde. Il n'arrivait pas toujours à les mettre à exécution. C'est un formidable geyser. Pierre Barry, c'était de la folie. Quand il commençait à parler et à mettre ses titres, le standard explosait. Les jeunes filles et les moins jeunes nous envoyaient des photos. Certaines étaient peu habillées d'ailleurs. Thierry Déon. Thierry Déon, je crois, j'en parlais sur le WhatsApp hier avec Pascal, mais je crois vraiment que Thierry Déon, c'est un record en France.
Hein. Oui.
Enfin, vous pourrez lui en parler tout à l'heure, mais à mon avis, il est salarié d'une radio, et en fait la même, depuis 35 ans, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait des gens en France qui soient comme ça.
Et il est où,
Thierry? C'est impressionnant. Et ça,
il travaille
et ça, c'est pas une
FM.
Question de...
Chéri FM.
Hein. C'est pas une question de chance ou...
Il reste
c'est une question de talent, ici, parce qu'il en a beaucoup, quoi.
Et dis-moi, est-ce que je peux me permettre de rappeler quand même que, grâce à la radio, tu as pu afficher tes compétences et ta passion pour la course automobile, puisque quand même, tu es devenu speaker des 24 heures du Mans, du Brésil au Mans, il n'y a qu'un pas, tu le franchis chaque année avec talent et tu l'as fait pendant beaucoup d'années, et j'ai eu moi ce plaisir, Marc, évidemment, de le partager avec toi, donc je te salue, et puis je le rappelle un petit peu aux auditeurs, parce que c'était vraiment quelque chose qui te caractérisait, et c'est une belle aventure qui t'est arrivée.
Bah, écoute, ouais, malheureusement, donc à cause de ce fumier de virus, malheureusement, je pense pas que cette année ce soit encore possible. En plus, parce que le Brésil n'est pas vraiment un bon élève sur ce point-là, mais j'espère pouvoir continuer ensuite. Ça, c'est une formidable aventure que je dois grâce aussi à un homme de radio, mais qui n'est jamais venu sur Radio Mel, c'est Bruno Van Destik.
Si, non,
c'est
je
radio,
corrige.
En fait.
Je corrige.
Moi, je suis ah bon.
Oui, puisque, pardon, en fait, je suis désolé de te dire, mon cher Marc, en fait, Bruno a débuté aux 24 heures avec Radio Men, puisque c'est Radio Men qui a créé Radio 24 heures, grâce à Philippe Rincel, à qui je veux rendre hommage ici, puisque Philippe Rincel était le directeur de l'écurie Jean Rondeau. Mm-hmm. Quand l'écurie a fermé ses portes, il est devenu directeur de Radio Men, et grâce à lui, nous sommes allés à la rencontre de la CO, et nous avons proposé à Philippe Debarle et Philippe de la Garoulée, qui étaient les co-speakers des 24 heures, après le célèbre Charles Laurens, enfin Jean-Charles Laurens, on leur a proposé à la CO de faire une radio, une vraie, intégrée dans la cabine speaker qui est tout en verre, qui dominait la piste, là. Et on faisait des flashs toutes les heures, avec des interviews, avec des bobineaux.
On traversait sous le tunnel, effectivement, pour de la ligne droite.
Et c'est comme ça que le début était lieu dans les anciens stands, Pascal.
Et Bruno, on parle des anciens stands. Et Bruno est venu nous voir, évidemment, puisque lui... Sa vie, son œuvre d'ailleurs, ce sont les 24 heures.
Bien sûr.
Et il a démarré chez nous.
Alors, Marc Arnoldi, je vous laisse nous dire un dernier mot, parce qu'on va appeler quelqu'un d'autre derrière.
Thierry Dehan.
Et c'est Thierry Dehan qu'on va appeler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos camarades et aux Sartois?
Ah bah alors, écoutez, je cherche des mots. Ah, je viens d'en trouver un. Merci.
merci
Marc. Parce que c'est vraiment ça que l'on peut dire. Et, à bientôt à tout le monde. Et vous avez cité deux noms. Je veux dire une phrase sur chacun. J'ai dit que vous avez été tous des professeurs pour moi. Jacques Guichard a été un professeur de vie pour moi. Donc je le salue.
Et pas que pour toi, je pense.
Vous avez cité Philippe Debarle, et on pense à lui, puisqu'il nous a quittés lui aussi il y a quelques mois.
Tout à fait.
Voilà. Je pourrais dire un mot à Marc et à tous. Marc, il est journaliste professionnel.
C'est Jean-Paul Muller qui parle.
Voilà, il parle pas français, hein, il est là-bas. Mais Marc a, sur une course des 24 heures, je ne saurais citer l'année, il le saura mieux que moi. Un pilote s'est tué dans les dernières heures des 24 heures, sur la ligne droite des Unodia. Je pense que la voiture est montée en l'air, elle est mal retombée. C'était un jeune pilote. Marc a fait, vous savez, longtemps après, il y a un débrief, il y a les cérémonies, et puis longtemps après, les trois speakers reprennent la parole et concluent. Et Marc a conclu en quelques phrases, avec une humanité absolument forte, des paroles émouvantes sur la fin de ce jeune pilote aux 24 heures du Mans. Le jour tombait, il y avait le soleil sur la ligne droite des Hunaudière. Il a été émouvant, et c'est une vraie patte et une vraie plume. Voilà ce que je voulais dire de Marc.
Voilà, on vous remercie, Marc Arnoldi, d'avoir été avec nous, vos camarades.
Merci, Marc.
Vous s'applaudissent finalement entre eux. C'est cette équipe-là de Radio Men ici qui est célébrée. Merci à vous. Hein. Et nous allons aller dans quelques instants avec Thierry Dehan, que nous allons essayer de joindre. Alors, en attendant d'arriver à cette liaison, alors que l'heure avance, oui. qu'est-ce que vous avez envie finalement de nous raconter? Est-ce que vous avez des anecdotes un peu croustillantes, de trucs absolument improbables qui ont pu se passer dans votre rédaction, dans votre équipe? Les moments que vous racontez toujours quand vous avez peut-être forcé un petit peu sur la boisson un petit moment. Voilà.
Justement, comme on n'a pas forcé sur la boisson, on ne racontera pas.
Pas de ça chez nous.
Non. On fêtait dignement, évidemment, au 8e étage, là-haut de l'immeuble du Maine Libre. On avait, donc, je le rappelais tout à l'heure, une vue exceptionnelle. Et après chaque émission du samedi midi, qui durait plus longtemps, il y avait le point de mire, évidemment, avec quelques animateurs, dont Jacques Guichard aussi, à la manœuvre. Et puis, il y avait le déshabillez-moi le matin, enfin, etc. Donc, on fêtait dignement toute l'équipe, là-haut, sur le balcon. Et il est vrai. Qu'on a ouvert quelques bouteilles. Mais quelques bouteilles seulement.
Alors, quand je disais ça, je voulais dire les souvenirs qui reviennent et les trucs insolites qu'on se dit. Alors, quand on se le dit pas sérieusement, voilà, c'est
un
ça.
Un truc insolite, quand on connaît la différence de physique entre Pierre Barry et moi,
oui,
surtout à l'époque.
Un grand et un petit.
D'un point de vue chevelure, on n'avait pas tout à fait la même chose, alors qu'aujourd'hui, on commence à s'en ressembler.
Ça se rapproche.
Donc à l'époque, il faut juste s'imaginer que Pierre Barry était très frisé, avait les cheveux assez longs, voilà. Et un jour, une dame est arrivée. On avait donc nos fans, bien évidemment, qui venaient régulièrement nous rencontrer. Et une dame est arrivée, et donc je parle. Elle me dit quoi? j'ai dit, voilà. Elle me dit, c'est vous, Vincent? Ben oui. Oh. Elle me dit, dis donc, vous n'avez pas le physique de votre voix. Ah bon? J'ai dit, quoi? D'après vous, ma voix ressemble à quoi? Et elle se retourne, tu étais derrière la vitre, dans ton petit studio, à côté. Et en fait, pour elle, j'avais la voix, en fait, de Pierre Barry, quoi.
Mais c'est ça, la magie de la radio, aujourd'hui, quand on pose la question, faut-il filmer la radio? C'est cette magie-là qu'on risque, effectivement, d'enlever. Je crois qu'on a Thierry Déhan avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Thierry Déhan?
Mais oui, parfaitement.
Alors voilà, donc Thierry Déhan, justement, vos camarades vont vous saluer, vous allez les saluer aussi.
Salut Thierry.
Salut Thierry.
Salut l'équipe.
Alors, salut. Vous, comment vous êtes arrivé à Radio Maine et qu'est-ce que vous y avez fait?
Voilà, c'était anecdotique, moi. J'avais débuté à Radio Tropicana, j'avais fait Radio Le Mans, j'ai fait Radio 24 Services. Malheureusement, la radio, peu de temps après mon départ, du moins après mes premières émissions, a brûlé. Et le camarade avec qui j'avais démarré à Radio Tropicana me dit un jour, là, il y a une annonce dans le journal, il recrute pour faire de la radio, il faut aller au Maine Libre, machin, voilà. Bon, il me dit, tu prends une cassette, je veux pas y aller tout seul, et on y va tous les deux. On est allés tous les deux. malheureusement pour lui, c'est moi qui étais pris.
C'est moche, hein.
C'est moche. Oui.
Et puis après, la carrière a duré quand même.
Ah bah oui,
sérieusement.
Oui, elle est toujours.
Donc, alors, c'est l'occasion justement d'expliquer un peu comment a évolué Radio Maine, comment Radio Maine a été repris ou voilà. Alors, ça s'est passé comment?
Alors, il y a eu tout le programme Radio Maine, toutes les années Radio Maine, qui était absolument sublime et magnifique. Il y a eu un abonnement à un programme, je ne sais plus le nom d'ailleurs, qui occupait une partie de l'antenne.
À la fin, oui.
Ensuite, nous avons basculé dans Radio Maine Programme, Chérie FM, à partir de 1990, voilà. Et ensuite, le groupe Énergie a racheté en 1997 Radio Maine, qui est devenu Chérie FM et qui est toujours Chérie FM encore aujourd'hui.
Et vous êtes resté le fidèle sur cette fréquence, en tout cas, sur cette filiation historique?
Exactement, depuis le premier jour, et même deux jours avant le premier jour, puisque Laurence avait démarré la toute première émission le 4 février 1984. C'était le test grandeur nature avant le lancement officiel qui était juste le lundi suivant, le 6, et le démarrage de toutes les antennes. D'ailleurs, pendant ce week-end-là, il y avait eu des affiches partout dans la ville, mais partout, des affiches 50-70 en dimension affichées sur les poteaux, des feux rouges, des feux tricolores, etc. Et sur l'affiche, il y avait en nombre l'apparence du nom de la radio, mais qui n'était pas affiché, et un grand rond avec point d'interrogation, point d'exclamation à une autre affiche, point trois points de suspension à une autre. Et en fait, le lundi du démarrage, toutes les affiches avaient été changées avec le nom de la radio et la fréquence.
Alors, ça s'appelle voilà. Du teasing. Hein.
Alors, ouais, il va nous rester très peu de temps dans notre créneau. Vous connaissez tous la radio. Hein, ça n'a pas changé. Ça, par contre, l'horloge. On fait un petit tour rapide pour dire ce que cette aventure, enfin, ce passage à Radio Maine, finalement, vous a apporté dans vos vies. Patrick Hoft, on fait le tour.
C'est pour ça que j'étais très très heureux de retrouver tous les camarades et puis de participer à cette émission-là, parce que c'était vraiment un grand grand moment dans mon existence, la radio. Je voudrais en profiter simplement, toute forme de conclusion, pour saluer, c'est pas pour rien que ça s'appelait Radio Maine, évidemment c'est la province du Maine, mais c'est aussi le Maine Libre, encore une fois. On a nombre de collègues du journal, de mes collègues de l'époque du journal, qui ont participer ou tenter de participer à des émissions qui étaient de notre grille de programme. C'était en fait une alliance animateur-journaliste et on était tous pleins d'ambition, y compris les collègues journalistes, parce qu'on imaginait que la radio allait véritablement prendre de l'ampleur médiatique. Et, donc je voudrais les saluer ici, là, tous ces collègues du Maine Libre qui ont participé à cette radio-là.
Francis Pousse, le petit mot de conclusion.
Bah pour moi, c'était mon premier job et c'est là où j'ai découvert un monde formidable, parce que la radio, c'est quand même un endroit où on rencontre plein de gens et dont ceux qui sont autour de la table. Et moi, ça m'a énormément plu en début de carrière comme ça.
Bruno Bernard.
Bah moi, les pubs, etc., j'en parlais tout à l'heure, ça m'a ouvert une carrière commerciale derrière et ça m'a vraiment permis d'être un animateur aussi, mais dans d'autres domaines.
Pierre Barry.
Je voudrais dire que j'ai beaucoup appris à faire des programmes cohérents en musique, etc. Beaucoup appris.
Et Jean-Paul Muller.
Oui, un petit mot sur le nom d'une personne qu'on n'a pas citée. Patrick, qui était ta collègue, c'était une superbe jeune femme blonde.
Viviane.
Qui s'appelait Viviane
Villermé.
Villermé.
Oh, il y a eu Sarah Denis aussi.
Oui, exact, Sarah Denis. Et qui étaient des jeunes femmes. Il y avait des bulletins d'information qui avaient de la gueule.
Oui, on n'a pas évoqué, bien sûr, la formation.
Et voilà, des gens, on a vu éclore des talents comme ça. Et moi, qui suis le plus ancien de la bande, Marc Arnoldi n'a jamais cessé de m'appeler le dinosaure de l'animation, chose que je prenais évidemment en souriant, parce qu'on a été comme ça à s'envoyer sans arrêt des vannes assez savoureuses.
Alors Pascal Brulon, on sait ce que vous êtes devenu, mais voilà, ça vous inspire quoi maintenant, ce petit moment passé ensemble, et puis vous-même, en quoi Radio Maine vous a
fait
évoluer d'une façon ou d'une autre?
Je ne sais pas si j'ai évolué, parce que avec l'aventure que je vis maintenant depuis 20 ans, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je suis avec une bande de jeunes en permanence. Alors là, ils sont devenus vieux, hein, mais à l'époque, c'était des gamins, et on apprenait tous ensemble, c'était une école pour tout le monde, et on s'éclatait comme des fous, on faisait ce qu'on aimait, et on comptait pas, et on avançait, on rigolait, et voilà.
Et voilà, on rigolait. Vous avez entendu, on est ici en extérieur, la cloche vient de sonner dehors, ça nous donne l'heure, on n'a pas l'horloge, mais on a l'heure comme ça, en sonore. Merci à vous, nous étions avec Marc Arnoldi, Thierry Déhan, Patrick Hoff, Jean-Paul Muller, Pierre Barry, Bruno Bernard, Francis Pousse, Pascal Brulon, tous anciens de Radio Maine, une des radios qui a marqué l'histoire des radios libres en Sarthe dans les années 80, dans les premières années. Vous retrouverez des témoignages de certaines de ces personnes à travers les films qui se trouvent sur le site sarthe-radio.fr. Ouais, ça vaut son pesant de cacahuètes, allez voir les films. Merci à vous, allez, au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Alors dis-moi, c'est quoi ces films?